plus d'excuses. Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail et pour une égalité réelle dans la culture et l'économie sociale et solidaire. Un magazine produit par les radios de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne, en DAB+.
Bonjour à toutes et à tous. Où en sont aujourd'hui les festivals et les milieux festifs vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles? Pour y répondre, nous serons en ligne dans quelques minutes avec Alix Davas, coordinatrice de la mission Sturm, qui travaille justement sur ces questions avec les festivals bretons. Mais avant, penchons-nous sur l'enquête sociologique sur ces violences sexistes et sexuelles en festival avec le cabinet d'études sociales Les Petites Voix. Plusieurs temps de prise de parole sur ce sujet étaient organisés en avril 2024 à la Maison des associations de Rennes. C'est un reportage signé Jeanne Lebacle de Radio Syllab, votre radio locale universitaire dans la région rennaise.
Ce jeudi matin, l'auditorium de la Maison des associations de Rennes se remplit. Et c'est pour venir entendre les résultats d'enquête d'un cabinet de sociologues que des organisatrices de festivals et des représentants et représentantes d'associations ont fait le déplacement.
Au niveau du cadre, en fait, l'enquête, c'est on y a eu accès avec un appel d'offres qui a été lancé du coup par la mission Sturm. Donc dedans, il y a Astropolis, HF Bretagne, Supermab, l'Orange Bleu et le collectif des festivals. Et du coup, c'était un appel d'offres qu'on a vu passer en 2022 maintenant, et c'est comme ça qu'on y a eu accès. Je suis Julie Bénard, je suis sociologue du genre et je suis cofondatrice des Petites Voix.
Donc moi, c'est Louise Gastet, aussi sociologue du genre. Donc on était en terrain connu là. Et du coup, les Petites Voix, c'est un cabinet d'études sociales qui, en fait, est dans un esprit hyper coopératif participatif avec l'objectif de devenir justement une SCOP, et on travaille pour les acteurs du social, que ce soit des associations, des collectivités territoriales ou des entreprises de l'ESS, pour les aider à mieux connaître les publics avec lesquels ils travaillent et les territoires sur lesquels ils interviennent.
En début de journée, c'est donc une table ronde en présence de plusieurs actrices de la prévention en milieu festif qui a eu lieu. Et l'après-midi, c'est 4 ateliers qui ont été organisés. L'un sur le racisme en milieu festif, un autre qui avait pour but de lutter contre la transphobie dans ces milieux, un troisième qui posait la question de savoir si les festivals sont des espaces masculins, et un autre qui revenait sur la parole des victimes interrogées durant l'enquête. C'est dans ce dernier que j'ai tendu mon micro.
L'idée, c'est d'avoir un premier atelier où moi, je vous projette des verbatims, des extraits d'entretien. Je vais vous les lire. Et puis, l'idée, c'est que vous n'étiez pas assis, mais que vous veniez autour de la table. Et que vous puissiez prendre une carte qui vous fait penser ou réagir par rapport à l'entretien. Mathilde, 24 ans. Elle est en festival et elle dit « Sur le camping, ça manque cruellement d'humanité. Les gens sont des animaux. Il n'y a plus trop de respect de personne et de rien. Il faisait très très chaud, donc il y avait beaucoup de filles qui étaient en crop top, maillot de bain. Enfin, moi la première. » Et beaucoup de réflexions, justement, très déplacées. Enfin, beaucoup de choses comme ça. J'ai une copine qui a récupéré une fille un matin qui s'était fait violer au camping. Et ouais, cette année-là, j'avais pas du tout kiffé. Même moi, je m'étais promenée la nuit toute seule. Enfin, j'ai pas de crainte de base. Et je me suis fait accoster 3-4 fois. On voulait me faire boire des trucs. Mais j'étais plus du tout bourrée. Et pour le coup, à ce moment-là. Mais heureusement. Mais je trouve que, il y a 2 ans, je ne sais pas si c'était le soleil qui leur tapait sur la tête, mais c'était un peu pas fou, quoi. Voilà. Il y a pas mal d'informations dans cette citation ici. Donc, vous pouvez la regarder avant de choisir une carte.
J'ai pris une carte qui représente un personnage avec la tête dans le brouillard. Ce témoignage, ça me fait penser à vraiment la charge mentale de la festivalière. Il fait très très chaud, mais il ne faut pas qu'elle soit en maillot de bain, il ne faut pas qu'elle soit trop bourrée, il ne faut pas qu'elle soit en croque-top. Je trouve que faut penser, en fait, les hommes quand ils vont en festival, ils pensent à faire la fête avec leurs copains, copines. Les filles, elles pensent à tous les autres trucs à côté. Voilà.
J'ai pris cette carte pour le sentiment de chasse que m'a amené ce témoignage, où on a vraiment, enfin moi, ça m'a donné l'impression de lions qui vont attendre les gazelles, qui vont boire à côté de la rivière au moment où elles sont censées justement être peinards et qu'ils arrivent en meute. Et voilà, j'entends vraiment un contexte de chasse, moi, là-dedans.
La commande, elle était basée du coup sur visibiliser vraiment l'expérience des victimes de violences en milieu festif. Et du coup, nous, on a dû resserrer la commande pour des besoins de faisabilité sur les festivals pour le terrain. Après, dans les entretiens avec les victimes, on a plus axé sur les milieux festifs en général. Et donc, on était sur une enquête qualitative avec des entretiens avec des personnes concernées par les violences, les professionnels aussi qui gravitent autour des festivals et de la prévention, et puis des observations sur site. On avait 25 personnes en entretien semi-directif. Parmi ces 25 personnes, il y avait 15 personnes qui étaient des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. On a eu aussi 4 membres d'organisations de festivals. Donc on est sur du festival de musique actuelle. 3 associations de prévention des VSS. Et 3 représentants de sociétés de sécurité.
Et je vous propose qu'on passe, du coup, si ça vous va, aux trajectoires. Océane, elle a 20 ans. De ses 12 à ses 15 ans, elle a été, du coup, victime de violences conjugales. Avec l'année de ses 15 ans, une intensification des violences sexuelles très, très importante, c'est-à-dire toutes les semaines. Et elle dit que ça a complètement impacté son rapport aux autres, évidemment. Son rapport aux sorties, parce qu'elle a été aussi extrêmement contrôlée dans ses sorties, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas aller faire la fête sans son compagnon. Et les rares fois où ça arrivait, elle m'a dit « je sentais son regard sur moi, même s'il n'était pas là, et dans la manière dont j'allais faire la fête, en fait ». Et donc, elle dit « toute la dernière année pendant laquelle j'étais avec lui, pendant mes 14-15 ans, dans mon année de seconde, c'était énormément de viols, au moins une fois par semaine, avec aussi beaucoup de rabaissement. Il me rabaissait beaucoup, il m'insultait souvent, il était très violent, verbalement et physiquement. » Ensuite, Océane, elle a fait ses premières sorties à 14-15 ans, dans des espaces militants, fréquentés par ses parents dans son petit village, donc des espaces safe, ou plus simples, comme elle a pu me dire. Pourtant, elle a été victime de drague lourde. Je reprends encore une fois ces termes, qui sont en fait des agressions sexuelles qui ont été, du coup, elle a 15-16 ans, je le rappelle, réalisées par des hommes plus âgés qui étaient, de ce qu'elle m'a décrit, des étudiants, notamment parfois des étudiants que son père avait en cours. Donc eux, ils avaient 22, 23, 24 ans, quoi, dans ces eaux-là. Et elle disait, alors que parfois elle était mineure, qu'il y en avait beaucoup qui l'attrapent par l'épaule, qui lui mettent les mains sur les cuisses, qui commencent à essayer de la draguer. Elle est mineure. Et elle est face à des gens qui la connaissent. Donc là aussi, il y a ce truc où elle me dit « oui, mais en vrai, dès que je leur disais non fermement, c'était bon. » Mais ça veut dire qu'il y a quand même... donc là, on est dans un bar, hein, notre contexte festif. Il y a quand même cette possibilité-là d'aller repérer une petite jeune, de s'installer à côté. Généralement, elle décrit ça, ils sont plusieurs, donc ils sont au moins 2. Ils arrivent, hop, et puis il y a cette intimité physique, on rentre dans l'espace privé, on fait comme si son corps, à elle, c'était un objet qu'on peut s'approprier complètement. Tout ça, ça participe donc à la culture du viol et le fait qu'elle va aussi, elle, s'auto-objectifier, en fait. Et se dire, bah, c'est pas très grave, enfin, bon, qu'est-ce que c'est de se faire toucher la cuisse. Voilà, elle décrit aussi les boîtes de nuit dans sa ville où il y a eu beaucoup d'agressions de jeunes femmes, où elle allait peu, parce qu'elle a subi du harcèlement scolaire et du coup, elle allait retrouver aussi ses harceleurs, donc elle voulait pas y aller. Mais du coup, elle décrit que dans cette boîte de nuit, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui étaient laissées entrer. Et là, en fait, c'est toute la dynamique des boîtes de nuit qu'on connaît, hein, donc, avec un marché aussi clairement autour de la sexualité des femmes. Donc on les fait rentrer, elles sont mineures, c'est pas grave, elles payent pas. Et puis derrière, on a des hommes, elle, dans son village, elle me dit des hommes de 30 ans qui arrivaient dans cette boîte de nuit. Elle a entendu beaucoup d'histoires dans son lycée, de copines, et donc elle n'y allait pas. Donc tout ça, c'est omniprésent, encore une fois, dans sa trajectoire. Elle s'est rendue à tout juste 18 ans dans une ville pour voir un ami, une ville inconnue. Tout le monde prend de la drogue autour d'elle. Elle se retrouve dans une soirée qui d'abord commence en bar.
Elle connaît personne, elle se sent directement en insécurité. Et comme tout le monde avait pris de la drogue, un preux chevalier est arrivé et lui a dit « Écoute, tu te sens pas très bien, t'as qu'à dormir ici. » Et donc on retrouve aussi cette logique-là de « Je m'assure qu'elle me soit redevable, je lui offre un abri, je lui rends service. » Et c'est là qu'il l'a violée. Donc là, elle a tout juste 18 ans. Prévenir les victimes, c'est bien. Leur dire de signaler, c'est bien. Mais en fait, c'est prévenir les agresseurs qui va jouer. Comment on sanctionne l'agresseur? Comment on fait pour que la victime elle soit la moins dérangée possible dans son moment? Qu'on lui en demande le moins possible parce qu'elle vient déjà de prendre énormément sur elle. Elle prend sur elle, elle se dit « Ok, c'est bon, je vais en festival, ça va le faire. » Elle se reprend cette atmosphère sexiste qu'on a déjà décrit et là, tous les traumatismes remontent. Elle pensait qu'elle était prête. Elle ne l'était pas. C'est ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle n'était pas prête ou est-ce que l'atmosphère, encore une fois, n'était pas prête à l'accueillir? Et donc, elle va décrire, par exemple, des bénévoles qui distribuent des préservatifs en lui faisant des petites remarques, en lui disant bah, « On viendra dans ta tente tout à l'heure », etc. etc. Évidemment, pour elle, c'est panique. Un mec aussi qui la prend au niveau des toilettes, 35 ans, elle en a 20. Elle en 18, du coup, à ce moment-là. Il s'approche d'elle, il est très saoul, il rentre dans sa zone et il insiste pour qu'elle lui donne son numéro. Et elle dit « J'ai donné mon numéro ».
Donc moi je suis salariée de l'association Les Catherinettes, c'est une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. C'est une asso qui s'est fondée en 2020 et qui propose à la fois des formations et à la fois des dispositifs qui vont directement sur les festivals pour prendre en charge et faire la prévention sur les violences sexistes et sexuelles. Pour nous c'était hyper important que par exemple un représentant d'un agent de sécurité, enfin des agents de sécurité soit là, c'était hyper important qu'il y ait une équipe de RDR, etc. Donc on en a discuté ensemble un peu en amont.
L'Orange Bleu, c'est un collectif d'associations qui assure des missions de prévention et réduction des risques en milieu festif sur la région Bretagne, et du coup principalement sur des enjeux de santé, donc de produits psychoactifs, de santé sexuelle et de santé auditive.
Nous, les Catherinettes, on a vraiment en tête, mais enfin, on n'est pas les seuls hein, maintenant, dans beaucoup d'assauts de réduction des risques et de violence, enfin de prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Enfin, l'objectif est de pouvoir fluidifier l'information un maximum, faire en sorte que tous les acteurs, actrices de l'événement se connaissent les expertises de chacun chacune, aussi pour que les cas de violence, de discrimination puissent être pris en charge de la manière la plus efficace possible.
Même si on ne se positionne pas comme une asso spécialisée sur la question, on se mobilise en fait pour faire avancer le sujet du sexisme en milieu festif. Et du coup, on est là pour apporter notre expertise sur le milieu festif, tout simplement, quoi.
On l'a répété dans la journée, là, mais ça fait partie des premières enquêtes sur le sujet, en tout cas en France. Et donc il y a tout un champ encore à aller explorer. Nous, on a vraiment fait une enquête assez large et généraliste. On aurait pu creuser tout un tas de sujets et du coup on espère qu'il y a d'autres recherches qui vont être menées pour permettre de continuer, de prolonger, d'approfondir vraiment le travail qu'on a fait là, quoi.
À l'instant, ce reportage sur cette journée sur les violences sexistes et sexuelles et rapports de domination en milieu festif organisé à la Maison des associations de Rennes. Un reportage signé Jeanne Lebacle de SILAB, votre radio associative dans la région rennaise. Alors, pour aller plus loin sur cette thématique d'égalité et de prévention dans les musiques actuelles de Bretagne, nous sommes en liaison avec Alix Davas, chargée de mission de la mission Sturm, copilotée avec le festival Astropolis, le collectif Orange Bleu, le collectif des festivals, HF Plus Bretagne et Supermab. Bonjour Alix.
Bonjour.
Alors tout d'abord, peut-être une réaction par rapport à ce reportage et à ce qu'on a pu y entendre.
Je trouve que le reportage est très intéressant. Ça a été organisé pendant une journée qu'on a faite autour de la restitution des résultats d'une enquête sociologique sur les violences en festival. Et l'atelier là dont on a entendu des extraits, qui était animé par une des sociologues, qui portait justement sur des résultats de cette enquête qui me paraissent vraiment intéressants, en tout cas pour donner à voir le continuum des violences qui peuvent s'exercer sur les femmes, notamment en festival. Donc pour ça, je trouve que le reportage est super intéressant. Ouais.
Ouais, il permet un peu, de restituer le résultat de cette enquête. C'est bien la mission Sturm que vous coordonnez, Alix, qui a organisé cette journée. Est-ce qu'on peut éclairer nos auditrices et auditeurs sur ce qu'est la mission Sturm et ses objectifs?
Oui, c'est un projet qui existe depuis un peu plus de deux ans et demi maintenant, qui a été cofondé par les cinq associations citées en introduction. Donc en fait, ces associations, elles se sont rassemblées en 2021 autour d'une table ronde qui avait lieu justement à Astropolis sur la question des agressions en milieu festif. Et elles ont souhaité en fait lancer un projet collectif autour de la lutte contre le sexisme dans le secteur de la musique pour à la fois créer des outils, créer de la ressource, avoir un poste notamment dédié avec une personne qui puisse orienter les structures et les personnes sur ce sujet au niveau régional, et puis aussi d'avoir un peu un élan collectif, on va dire, autour de ce sujet-là, de permettre aux personnes de se rencontrer, de favoriser l'échange de pratiques, puisqu'en fait, le constat qui était fait à ce moment-là, c'est que le sujet commençait à être visibilisé et pris en charge, mais de manière un peu isolée par des festivals, des salles ou des personnes à titre individuel. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une montée en généralité sur ces questions-là.
Oui, de coordonner effectivement plusieurs festivals, plusieurs organismes qui se sont saisis de cette matière importante. Alors, on a entendu dans le reportage, Alix, des témoignages rapportés de comportements sexistes et de violences sexistes et sexuelles dans les événements festifs comme des festivals. C'est parfois assez poignant d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dresser, sans forcément rentrer trop dans les chiffres, dans la statistique, un tableau aujourd'hui, une photo de la situation de ce qu'est justement, de ce que sont aujourd'hui ces comportements dans les milieux festifs en Bretagne? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Alix?
Justement, c'est assez compliqué d'avoir un tableau, on va dire, précis, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu lancer cette enquête, qui est une enquête donc qualitative, donc qui va porter sur des matériaux issus d'entretiens. En fait, c'est pas une enquête qui vise à faire émerger des chiffres, et pour nous, c'était vraiment important justement de rentrer dans le détail de ce que sont les violences en milieu festif. Qui les subit, en fait, qu'est-ce qui se joue vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est encore dur à saisir d'un point de vue, on va dire, scientifique, etc., parce qu'en fait, il y a très peu de données, que ce soit statistiques ou autres. Mais en tout cas, ce que l'enquête, elle a permis de montrer, des choses dont on se doutait déjà, mais donc là, on peut avoir une base un peu plus factuelle sur tout ça, c'est que donc les violences, évidemment, sont omniprésentes dans ces espaces-là, et que c'est des violences qui visent les femmes et les personnes LGBTI en majorité. Donc ça veut dire que c'est des violences qui s'inscrivent dans des rapports de domination qui concernent la société, donc que ce soit le sexisme, la transphobie, mais aussi le racisme, et que la manifestation de ces violences, elles peuvent être assez diversifiées. Et on a sans doute, enfin assez généralement en tout cas, une vision des violences sexuelles ou des violences sexistes qui vont être de l'ordre du physique. Et en fait, ce que l'enquête, elle montre, et ce que le reportage, je trouve, montre bien aussi, c'est qu'en fait, les violences physiques, ce n'est pas les plus fréquentes, mais ce qu'il va y avoir de manière assez récurrente pour les femmes dans les espaces festifs et les festivals notamment, ça va être des agressions verbales, mais aussi des regards insistants, des commentaires sur le physique, le fait d'avoir des personnes qui les suivent, qui imposent des contacts physiques, des frôlements, des choses comme ça qui peuvent être assez fugaces et que les gens ont parfois du mal à identifier comme de la violence, mais qui contribuent, disons, à créer une atmosphère qui va être exclusive.
Et c'est le cas aujourd'hui en 2024, ça a tendance à s'aggraver, a priori. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça?
Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une amélioration ou une aggravation, parce qu'on est vraiment sur des phénomènes de fond, structurels, donc en fait les évolutions, elles se voient sur du très long terme. Et si on regarde sur les violences sexuelles au global dans la société, les données, en fait, elles sont constantes. Je veux dire, il n'y a pas, depuis des dizaines d'années, il n'y a pas d'évolution sur la prévalence de ces violences. Après, les évolutions qu'il va y avoir, ça va être plutôt en termes de dénonciation. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde sur les violences sexuelles, les chiffres notamment du ministère de l'Intérieur, bah, il va y avoir une augmentation des dépôts de plaintes et donc des faits qui sont recensés par la justice. Mais ça, c'est plutôt lié à un contexte de libération de la parole, de visibilisation du sujet, qui fait que les personnes vont plus identifier ce qu'elles vivent comme de la violence et se sentir peut-être plus légitimes à les dénoncer. Mais en termes vraiment de valeur absolue, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une évolution dans un sens ou dans l'autre.
C'est ça, c'est peut-être en tout cas plus dénoncé aujourd'hui qu'avant.
En tout cas, c'est à ça qu'on travaille, parce que l'objectif premier, c'est vraiment de visibiliser ces violences, de mettre les personnes en capacité de les dénoncer, mais aussi et surtout que la société puisse entendre ces paroles-là, et qu'ensuite, à partir du moment où ces violences, elles ont émergé, c'est là qu'on est en capacité de les traiter, quoi.
Alors justement, vous avez commencé à répondre à la question suivante, mais depuis que la mission Sturm existe, comment avez-vous travaillé avec les festivals pour faire avancer les choses dans le bon sens? Quelles sont peut-être les actions concrètes qui ont pu être déjà mises en place et qui commencent à porter peut-être aujourd'hui leurs fruits?
Notre objectif avec Sturm, en fait, c'est de permettre d'outiller les personnes et les structures qui veulent s'engager là-dessus, donc en fait, de leur donner des compétences, de les aider à développer ses compétences et à développer aussi des liens entre elles pour justement identifier les violences et puis savoir comment agir. Donc en fait, on va travailler pas mal sur tout ce qui va être formation, donc des formations sur justement quelles sont les violences, comment est-ce qu'on les repère, quels sont les recours, quel est le cadre légal qui les encadre, comment est-ce qu'on peut agir aux côtés des victimes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur son festival justement pour à la fois prévenir, donc essayer d'empêcher qu'elles arrivent et puis agir si ça a lieu. Donc ça, c'est un gros volet de nos actions, et donc il y a de la formation mais aussi de la création de ressources. Par exemple, on a créé un guide pratique, là, si on reste sur le cas des festivals, un guide pratique pour aider les structures organisatrices d'événements à mettre en place un protocole, donc c'est-à-dire un circuit de signalement, en fait, pour les personnes qui seraient témoins ou victimes de violences sur les festivals, qui est vraiment un élément qui nous paraît essentiel pour qu'il y ait un peu une formalisation de la prise en charge des violences et des victimes. On organise pas mal de temps de rencontres entre professionnels, enfin, en tout cas, et aussi bénévoles, autour de différents sujets qui peuvent être abordés, qui ont trait à la thématique du sexisme, quoi. Et ça, c'est des rencontres qui sont biannuelles. Donc, l'idée, pareil, c'est de maintenir une dynamique, de permettre aux gens d'échanger entre eux, entre elles. Voilà, on travaille aussi sur un peu de la... En tout cas, on participe à de la coordination entre les associations qui interviennent dans le milieu festif. L'idée, c'est aussi de pouvoir être en contact avec le terrain. Voilà, en gros. Et puis après, c'est ce travail d'enquête, justement, qui fait aussi partie de nos gros axes.
Ça concerne aujourd'hui l'ensemble des festivals en Bretagne, où il y a encore des festivals à aller voir, à venir sensibiliser, à venir informer et former?
Ça ne concerne probablement pas tous les festivals en Bretagne, parce qu'il y en a tellement, et tellement qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on gagne en visibilité. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi tendance à travailler avec des personnes qui sont déjà engagées là-dessus, enfin voilà, pour aller plus loin. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi cette capacité à développer, à aller voir aussi, enfin aller chercher peut-être des personnes ou des structures qui nous connaissent pas, avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Mais en tout cas, on essaie de pouvoir être saisi et d'accompagner toutes les personnes qui le souhaitent.
En tout cas, la clé, si j'ai bien compris, c'est vraiment aussi d'avoir quand même des référents, référentes internes au festival qui se saisissent de la question et qui peuvent derrière agir sans vous, après avoir été formés. C'est bien ça.
Ouais, ce serait des référents et des référentes, mais aussi pour nous, c'est important de responsabiliser, enfin en tout cas de rendre responsable et puis de mettre aussi en capacité d'agir toutes les personnes qui sont en situation de direction, enfin en tout cas les directions, aussi les CA, ça dépend des structures, souvent c'est des associations, donc ça fonctionne comme ça, mais en tout cas les personnes qui construisent le projet de la structure, du festival, qui ont une vision et qui du coup, c'est aussi à elles et à eux d'intégrer ces sujets-là dans le projet de la structure et que ce soit pas juste une activité annexe. C'est aussi les directions qui ont une responsabilité légale dans la prévention des violences, que ce soit pour leurs équipes ou pour les publics. Et donc, pour nous, c'est important aussi de former ces personnes-là.
Quand vous allez voir ces festivals, est-ce qu'il arrive que certains d'entre eux ou certains membres de ces festivals n'aient pas forcément conscience, a priori, qu'il peut y avoir des problèmes de comportement dans leur festival? Est-ce qu'il y a effectivement ce phénomène de non-conscience quand vous allez les voir, où tout le monde est déjà un peu sensibilisé quand même à la question, a priori?
Je pense que la majorité des personnes sont quand même conscientes, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est visibilisé, il y a eu beaucoup d'actions médiatiques et puis de collectifs qui ont aussi de festivalières en fait qui ont visibilisé ça, d'associations féministes. Après, je pense que c'est toujours dur pour des organisateurs d'événements de se dire que ça arrive sur leur événement, ce que je comprends en fait, parce qu'on n'a pas on n'a pas envie d'organiser un festival où il y a de la violence qui s'exerce et c'est quelque chose qui, je pense, est difficile à accepter de ce point de vue-là. Et donc, il y a aussi tendance parfois à vouloir minimiser ou alors souvent les personnes disent ça nous est jamais arrivé parce qu'on n'a jamais rien qui est remonté. Et moi, ce que je leur dis dans ces cas-là souvent, c'est que justement, s'il n'y a rien qui est remonté, c'est peut-être là qu'il faut s'inquiéter parce qu'en fait, statistiquement, il y a forcément eu déjà des cas sur leur festival au vu des données qu'on a au niveau national. Et donc, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui fait, quels sont les obstacles en fait qui font que les personnes vont pas dénoncer et de pas voir le fait d'avoir des cas qui rentrent de son festival comme un échec, mais au contraire comme une opportunité de vraiment prendre en charge le sujet, quoi.
C'est ça, l'idée, c'est pas de stigmatiser un festival ou un autre, mais c'est vraiment de les aider à avancer sur cette thématique.
Oui, complètement. Ouais.
En dehors des festivals, il y a tous les autres lieux festifs, mais aussi le milieu plus global des musiques actuelles en Bretagne. Là encore, est-ce qu'on peut citer, Alix, quelques peut-être quelques exemples emblématiques d'actions que vous avez travaillées et mises en place pour prévenir et limiter ces comportements et violences sexistes et sexuelles à l'intérieur de ces structures, peut-être là, parmi les salariés, les bénévoles de ces structures.
Mais effectivement, on ne travaille pas que sur le milieu festif, on travaille sur le secteur professionnel et bénévole aussi des musiques actuelles. Et là-dessus, bah, encore une fois, la formation, ça c'est les formations qu'on propose. D'ailleurs, à l'origine, elles étaient plutôt axées sur les questions de travail, donc pour travailler ça en interne dans les équipes. Et ensuite, un outil qu'on a aussi développé et qui fonctionne assez bien, c'est le Pacte pour l'égalité dans les musiques actuelles, qui est un outil qui a été développé à l'origine par HF+. Et en fait, on l'a retravaillé et revisibilisé dans le cadre de Stourm. Et donc, c'est un menu d'actions qui, en fait, présente un ensemble d'actions à mettre en place dans une structure sur les questions d'égalité. Et qui peut être utilisé, voilà, comme autodiagnostic ou pour trouver des idées de choses à mettre en place par n'importe qui. Il est accessible en ligne. Mais on voulait aussi avoir une forme d'engagement des structures autour de cet outil. Donc, en fait, il est ouvert à signature, c'est-à-dire que n'importe quelle structure du secteur de la musique peut devenir signataire en remplissant un certain nombre de conditions. Et ça leur permet aussi de, en fait, on organise un genre de groupe de travail avec des personnes qu'on appelle des personnes relais qui viennent de chacune des structures signataires, pour justement avoir des temps d'échange et de travail un peu plus précis sur les dynamiques internes, ce qui est mis en place dans chacune des structures, favoriser l'échange de pratiques.
Alix, on comprend dans ce qu'on vient d'évoquer qu'il y a un travail de fond qui est mené par la mission Stourm depuis un moment et que cette mission ne va pas s'arrêter, il y a beaucoup encore à faire. Pour que nos auditeurs et auditrices puissent peut-être aller plus loin sur ces enjeux, mieux les comprendre, sur les actions qui existent aussi, est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer des sites de référence ou peut-être à commencer peut-être par celui de la mission Stourm?
Oui, complètement. Ben, alors sur la mission Stourm, on a une page sur le site du collectif des festivals où il y a un certain nombre de ressources qu'on a créées qui sont recensées, notamment par exemple le guide dont je parlais là, à destination des organisateurs d'événements sur la construction d'un protocole. Puis c'est là aussi où on retrouve toutes les formations, les événements qu'on peut organiser. Je pensais aussi à un site qui s'appelle WAH, c'est W-A-H. C'est un projet qui est porté par la Fédélima, qui est un réseau de lieux de musique actuelle et qui, en fait, ce site-là recense justement plein d'initiatives au niveau national, de ressources, vraiment sur les questions d'égalité de genre dans le secteur de la musique. Donc ça peut être aussi une bonne ressource qui regroupe un peu différentes infos. Et puis les sites d'associations comme Consentis, les Catherinettes, qui peuvent aussi repartager de la ressource. Et peut-être un dernier site aussi que je recommanderais, là c'est plutôt pour les personnes qui auraient été témoins ou victimes de violences, c'est le site de l'AVFT, l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes au travail, qui est un site très ressource pour justement les personnes qui ont vécu ou été témoins de violences sexuelles dans le cadre du travail, avec beaucoup de ressources sur le sujet.
Très bien. Alix Davaz, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargée de mission de la mission Stourm, qui est copilotée avec le festival Astropolis, le collectif Orange Bleu, le collectif des festivals HF+ Bretagne et Supermap. Je rappelle le site internet où on peut trouver la page de la mission Stourm, c'est le collectif des festivals.org. Et là, vous pouvez retrouver, donc, en allant sur ce site, l'onglet mission Stourm, où vous trouverez plusieurs références. Merci Alix.
Merci.
Et vous retrouverez donc le magazine Plus d'excuses dédié aux actions de prévention des violences sexistes dans le travail, dans le monde de la culture et de l'économie sociale et solidaire, en diffusion sur l'ensemble des radios associatives locales de Bretagne de la Corlab. Également sur le site de la Corlab, corlab.org, rubrique podcast, magazine Plus d'excuses. À bientôt donc pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin des autres.
C'était Plus d'excuses, un magazine produit par la Corlab et Radio Boa avec le soutien de la Région Bretagne, de la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. En partenariat avec la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la mission Stourm et les CIDFF, le réseau des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.